question. C'est vraiment un honneur. Déjà, j'étais honoré d'être invité. J'ai été accueilli à la porte par le pasteur. Et puis, être introduit comme ça, c'est vraiment une joie. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Chaque invitation pour un pasteur dans une église, c'est une source de joie. On se sent reconnu, on se sent aussi honoré. Et chaque invitation est particulière. Quand on est invité chez quelqu'un, c'est toujours un moment particulier. Et celle-ci, ce matin, elle l'est vraiment pour moi. J'avais planifié dans ma tête, ça aurait été un superbe discours. J'allais dire tout ce qu'Antoine vient de dire. Et comme il l'a dit, eh bien, je vais simplement peut-être répéter à peu près les mêmes choses avec le filtre de mon regard. C'est vrai que j'étais un adolescent pas facile quand on est arrivé dans l'église à Waterloo. Donc c'est une église que Antoine Christiane avait fondée, une église qui avait, juste avant notre arrivée en 90, vécu des moments difficiles. Et donc l'église à Waterloo, et puis nous-mêmes, ma famille, mon papa, ma maman et moi, j'avais 10 ans à l'époque. Donc je ne comprenais pas tout, mais avec le temps après, j'ai mieux compris ce qui s'était passé. On quittait une église où on avait été blessé. Parfois, on peut expérimenter ça, de quitter une église parce qu'on est blessé et être accueilli quelque part. En tant que pasteur, j'ai accueilli des gens, parfois qui venaient d'autres églises, et ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas facile. Quand on a grandi dans une église, quand on s'y est développé et qu'on la quitte blessée, on est un peu comme un arbre déraciné. Et je peux vous dire, quand Antoine et Christiane sont venus à Moucron au mois de février, j'ai tenu à le dire, en tant qu'enfant, j'ai vu mes parents être complètement restaurés par l'œuvre de Dieu, mais les mains, la voix de Dieu, ça a été aussi à travers Antoine et Christiane. Ils ont vraiment recueilli mes parents, ils nous ont recueillis aussi, nous les enfants, et ils ont passé du temps avec eux à les restaurer, à les guérir. Et ce matin, en venant à l'église, je repensais à ça et l'image qui m'est venue, et je voudrais la partager comme une pensée de Dieu pour le couple d'Antoine et Christiane, pour leur famille et pour leur église. Je voudrais partager cette pensée et je crois, et c'est dans mon expérience, j'ai vu que le pasteur dans une église, son identité, elle déteint sur l'église. Vous comprenez, les dons, la vision, les qualités du pasteur vont déteindre sur l'église. Et quelque part, on est tous uniques, mais tels sont Antoine et Christiane, telle est leur église, telle est l'église de Lille. Amen. Et cette pensée, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, si je me souviens bien. On nous décrit la Nouvelle Jérusalem et il est dit qu'il y a un fleuve de vie. Il y a un fleuve de vie et il y a un arbre. Il y a un arbre et c'est l'arbre de vie. Et il est dit de cet arbre qu'il porte du fruit chaque mois. Et qu'il porte aussi du feuillage et que son feuillage ne flétrit jamais. Et il est dit de cet arbre que ses feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Et la Bible souvent elle utilise l'image de l'arbre pour désigner l'être humain. L'être humain qui est comme un arbre, qui peut s'enraciner en Dieu. Et le feuillage du ministère d'Antoine et Christiane, ça a contribué à la guérison de ma famille. Alors pour ça, je veux à nouveau vous remercier Antoine et Christiane. Et je veux remercier aussi toute l'Église. Voilà, parce qu'on a vraiment été bénis. Quelques années plus tard, 7 ans plus tard à peu près, quand nous avons quitté l'église de Waterloo, c'est à peu près 80 personnes qui sont parties, qui ont été libérées pour commencer quelque chose à Moucron. Là encore, en tant que pasteur, si j'avais 80 personnes qui partaient de mon église d'un dimanche à l'autre, je pense que je m'écroulerais. Mais vraiment, merci le Seigneur, parce que non seulement on a été restaurés, on a été équipés pour continuer l'œuvre de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie d'être le témoin, le spectateur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment une joie et un honneur. Je le répète, je me répète un peu. Donc, comme Antoine l'a dit, je sers le Seigneur comme pasteur depuis 4 ans à peu près. C'était dans des circonstances très difficiles parce que mon papa a eu une aphasie cérébrale, une lésion en fait, ce qui fait que depuis quelques années, il perd la capacité de s'exprimer. C'est au niveau du langage, si vous voulez, le problème. C'est un peu comme la maladie d'Alzheimer, mais ça touche le langage. Donc il a les souvenirs, mais il ne sait plus s'exprimer. Donc ça a été diagnostiqué vraiment en 2006. mais il a continué à servir le Seigneur jusqu'au moment où en 2007-2008, où c'était vraiment plus du tout possible. Et à ce moment-là, il a dû se retirer et ça s'est fait en très très peu de temps. Et l'appel de Dieu sur ma vie s'est manifesté très très fort à ce moment-là. Disons, je savais que le Seigneur m'avait appelé, j'avais déjà répondu oui pour le servir, mais je ne m'étais pas préparé à être pasteur. D'ailleurs, mon épouse, quand on s'est mariés, elle s'est dit, ben, c'est bien, j'ai épousé le bon, celui qui ne deviendra pas pasteur. Parce que mon petit frère, lui, il voulait devenir pasteur. Le Seigneur a fait les choses différemment, je suis devenu pasteur, elle l'a accepté et elle sert le Seigneur avec moi. Et donc depuis 4 ans, on a relevé, il y a eu beaucoup de défis à surmonter. Une église dont le pasteur est malade, c'est une église qui n'est pas très bien. Donc il a fallu prendre soin des gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont réjouissantes. On a vécu des grands moments dans la prière et dans le jeûne. J'ai l'impression qu'il y a eu une période de désert. Je ne suis pas sûr qu'on en est totalement sorti. Je ne sais pas, finalement, si on en sort un jour, Antoine et Christiane. Je pense qu'il y a toujours des moments de désert, des passages comme ça. Mais on vit aussi des belles bénédictions. Il y a des bonnes choses qui se passent. Chaque dimanche, sans qu'on fasse de grandes campagnes d'évangélisation, il y a des nouvelles personnes. Et ça, c'est fantastique. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Et donc, il y a beaucoup de bonnes choses. Et je veux vraiment louer le Seigneur et le remercier pour ça. Alors, ce matin, j'aimerais faire les choses en deux parties, si vous êtes d'accord. D'abord, je vous explique, je vous donne le menu, et puis vous me direz si vous êtes d'accord. Alors, la première partie, je voudrais vous apporter le témoignage d'événements que j'ai vécu il y a 10 ans. J'ai été gravement malade, j'ai été opéré, et c'était l'occasion pour moi de voir la main de Dieu à l'œuvre. Et quand je suis devenu pasteur, les premières fois où j'ai été invité à prêcher dans d'autres églises, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui me donnait ce mandat, cette mission, de partager cette expérience-là en particulier, de la partager dans les églises. Donc j'aimerais partager ce témoignage dans une première partie et dans une deuxième partie, tirer quelques éléments d'expérience, mais aussi des éléments de la Bible sur l'œuvre de Dieu. Il y a au moins un enfant qui est d'accord pour ce programme. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui.
Oui. Chouette. Alors on commence par... je vais vous raconter un peu mon témoignage. Quand j'avais 17-18 ans, que je m'intéressais aux jeunes filles, comme Antoine l'a dit. C'est vrai. Assez rapidement, il y a une jeune fille qui s'intéressait à moi aussi. Et une fois qu'elle a eu 1000 grappins sur moi, elle ne m'a plus laissé partir. Et c'est mon épouse, elle s'appelle Clémence. Elle n'est pas avec nous ce matin, parce que normalement, elle devait être là. On a dû changer nos plans en dernière minute, parce que notre petit garçon, le dernier de nos enfants, avait la fièvre. Il avait de la fièvre, il n'était pas bien. Donc, elle a décidé de rester à Moucron. Mais donc, à 17-18 ans... jeune homme, j'ai commencé des études universitaires pour être professeur de français et tout se passait bien, mais j'ai commencé à avoir des maux de tête. Alors des maux de tête, je pense que si je devais demander qui en a déjà eu, à peu près tout le monde lèverait la main. Les maux de tête, c'est quelque chose qu'on connaît, mais ils devenaient de plus en plus douloureux, pénibles, et ça a duré quelques années. Ça a duré à peu près 4 ou 5 ans, mais après quelques années, j'avais aussi des pertes d'équilibre. Je devenais sourd d'une oreille, j'avais des problèmes de vue. Même à un moment donné, j'avais des nausées. Et alors, en tant qu'enfant de chrétien, j'avais toujours connu Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? On prie. Donc j'avais prié, Seigneur, guéris-moi. Je crois que tu peux me guérir, guéris-moi. Et je faisais cette prière-là tous les jours. Seigneur, guéris-moi. Mais j'avais quand même des maux de tête. J'avais toujours sur moi des aspirines. Vous savez, les grosses aspirines effervescentes. Et comme j'en prenais 5-6 par jour, je m'étais habitué à les croquer, même sans prendre de l'eau. Et pas toujours un verre d'eau sous la main. Et donc toujours des maux de tête. Et à un moment donné, même j'étais réveillé la nuit à cause de ces maux de tête. J'étais réveillé à cause de la douleur. Et puis une nuit, alors que je m'étais réveillé, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie le Seigneur pour qu'il me guérisse depuis quelques années. Et j'ai toujours ces maux de tête. Alors, soit Dieu n'existe pas et je ne suis pas guéri. Soit Dieu existe et il y a quelque chose d'autre. Il faut que je prie différemment. Il faut que ma prière soit différente. Et comme je croyais que Dieu existait, vous avez eu peur pendant un instant, comme je croyais que Dieu existait, cette nuit-là, j'ai vraiment été conduit par le Saint-Esprit à prier d'une manière tout à fait différente. J'ai dit, Seigneur, les maux de tête, ça peut signifier n'importe quoi dans mon corps, mais en tout cas, c'est un symptôme. Le Saint-Esprit m'a montré cette nuit-là, si vous voulez, quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé, c'est que les maux de tête, c'est un signal. C'est le signal qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans le corps. Et moi, j'étais occupé de prendre des aspirines tout le temps pour dire à mon corps d'arrêter de me signaler qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai été amené à prier en disant, Seigneur, révèle la source de ces maux de tête. C'était une prière comme tout à fait différente. Je lui ai demandé de révéler, et je vais même aller plus loin, j'ai dit, Seigneur, j'ai peur. On a toujours peur d'apprendre qu'on a quelque chose de grave comme maladie. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'autorise à révéler. Vous comprenez, je te demande et je veux que tu sois libre, Seigneur, de me montrer quelle est la cause, la source de ces maux de tête. Eh bien, quelques jours plus tard, ma famille avait pris rendez-vous pour moi pour que je fasse un scanner. Et alors là, le médecin, quand il est venu nous voir dans la salle d'attente, mon épouse et moi, on était mariés depuis 2 ans. Tout de suite, on a vu à son visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, il a dit, le scanner montre qu'il y a une tache dans le cerveau. On ne sait pas ce que c'est, mais si c'était une tumeur, vous seriez déjà mort. Donc, ce n'est pas une tumeur. Mais il faudra que vous fassiez des examens complémentaires. Alors, 3 jours plus tard, j'étais hospitalisé à l'hôpital universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Et puis là, pendant 2 semaines, ils m'ont fait un tas d'examens. Et pour vous planter un peu le décor, quand je suis arrivé le premier jour à Saint-Luc, on m'a mis dans une chambre. Assez vite, ils ont diagnostiqué que c'était une tumeur au cerveau. C'était quand même une tumeur. C'était une tumeur au cerveau, mais ils ne savaient pas exactement où elle se situait et quelle était la gravité. Donc, ils m'ont installé dans une chambre. Et puis, j'étais avec mes parents, mes beaux-parents. Et on plaisantait un peu pour dédramatiser. On voulait, en tout cas, moi, je ne voulais pas sombrer dans la détresse la plus absolue. On plaisantait un peu, on essayait de prendre du recul. Et puis là, il y a le médecin qui est arrivé avec tous ses assistants. Pour vous représenter ça, imaginez Dr House. Il est arrivé avec tous ses assistants, il est entré dans la chambre, il s'est mis dos au mur, il nous a regardés, et puis il a dit, j'espère que vous vous rendez compte que c'est grave. Je vous assure qu'on a arrêté de rigoler. Et alors, par la suite, il y a eu des examens à peu près tous les jours, et puis les assistants venaient me voir, et puis ils disaient, voilà, la tumeur est située à l'arrière du cerveau, là où tous les nerfs s'entremêlent avant de passer dans la colonne vertébrale. Donc en enlevant cette tumeur, il y a de grandes chances que vous soyez handicapé, que vous soyez paraplégique, hémiplégique, aveugle, que vous mourrez. Enfin, il m'avait vraiment préparé à un tas de choses. Vous connaissez déjà à peu près la fin de l'histoire, puisque je suis là devant vous, occupé de m'agiter. Mais quand on est dedans, c'est impressionnant. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que je vous assure qu'il y avait la paix de Dieu dans mon cœur. J'avais vraiment la paix de Dieu. J'avais l'assurance que le Seigneur était avec moi, qu'il était présent dans cette chambre. J'avais l'assurance que ma destinée était dans sa main. Et c'est une paix, c'est un sentiment qui est très puissant et que j'ai ressenti à ce moment-là de ma vie comme je l'avais jamais ressenti avant et comme je ne l'ai plus ressenti avec autant de puissance après. J'avais cette assurance, non pas que je serais guéri, j'étais pas sûr de ne pas être handicapé, j'étais pas sûr de ne pas être paraplégique, mais j'étais sûr que quoi qu'il arrive, le Seigneur était avec moi. Et à ce moment-là, j'avais besoin de rien d'autre. Je savais que si je mourrais, j'irais auprès de lui. Je serais au ciel avec lui. Je savais que si jamais j'étais handicapé ou en chaise roulante ou quelque chose, je savais qu'il serait avec moi et qu'il m'aiderait jour après jour à porter ça. Et donc j'étais dans la paix, ça a duré pendant 2 semaines. Et puis alors le matin où ils sont venus me chercher pour aller en salle d'opération, j'étais seul avec mon épouse, c'était très tôt. Et en partant, je ne savais pas si j'allais revenir, mais en tout cas, je lui ai dit, j'ai la foi. J'étais sûr que le Seigneur serait avec moi. C'est ma certitude. Alors, ils ont ouvert mon crâne et ils ont commencé à m'opérer. En fait, le premier jour d'opération, ça a duré pendant 8 heures. Moi, j'étais sous anesthésiant, donc je ne me souviens de rien, mais ma famille attendait dans le couloir. Et comme j'avais pris beaucoup d'aspirine, les aspirines fluidifient le sang. Donc, il y avait beaucoup de sang dans mon crâne. Et les docteurs m'avaient dit qu'en opérant dans le crâne, ils pouvaient toucher n'importe quel nerf et qu'en touchant un nerf, c'est comme ça que la paralysie pouvait se développer. Et donc, il a essayé de m'opérer, mais il y avait énormément de sang. Et donc, après 8 heures de travail, il a décidé de boucher une artère du cerveau et de me renvoyer comme ça, enfin, de continuer l'opération le lendemain. Il est sorti, il a vu ma famille et il a dit, c'était le neurochirurgien, donc Dr House, il a dit à ma famille, voilà, j'ai dû boucher une des artères du cerveau. On ne sait pas s'il va survivre, parce que les artères du cerveau sont importantes, hein, vous l'avez compris. Mais bon, il fallait qu'on fasse comme ça. Donc vous imaginez ma famille complètement en miettes. Après une journée d'opération à espérer une bonne nouvelle, ils doivent rentrer chez eux. Et alors le lendemain, il a recommencé à m'opérer. Au final, l'opération a duré pendant 22 heures. J'ai été opéré pendant 22 heures. Et puis, suite à l'opération, je me suis retrouvé aux soins intensifs. Et là, c'était comme si une nouvelle existence commençait pour moi. Aux soins intensifs, j'ai dû rester allongé pendant longtemps. J'avais des tuyaux tout partout, des tuyaux qui sortaient de tous les orifices, même des orifices qu'on n'imaginerait pas. Et puis, et c'était vraiment comme si j'étais redevenu un bébé. J'avais le sentiment que, vous savez, la Bible dit que la vie, elle est comme un souffle, comme la fleur des champs, comme l'herbe des champs qui fleurit et puis qui flétrit aussitôt. J'ai pris conscience que la vie humaine, c'est rien du tout. C'est vraiment, elle est tellement fragile. Et j'étais tellement conscient de cette fragilité que je pensais que je ne survivrais pas, en fait. J'étais là au soin intensif, après l'opération, je pensais que j'allais partir. Et donc je me sentais vraiment comme un bébé. En tant que malade, si vous avez déjà été hospitalisé, vous savez qu'on n'est plus maître de ce qui nous arrive. Les gens nous font des piqûres, ils nous donnent des médicaments, ils nous font des examens, ils s'occupent de nous, et nous-mêmes, on n'a plus le contrôle sur notre destinée. On n'a plus de contrôle sur notre vie. Et c'était un sentiment vraiment particulier, parce que quelque part, j'avais abandonné le contrôle de ma vie. Mais j'ai survécu. Et à partir de là, il y avait quelques changements. J'étais devenu beaucoup plus émotif. Tout ce que je faisais, c'est comme si c'était la première fois que je le faisais. Et donc, quand je suis remonté dans une chambre, j'avais qu'un seul désir, c'était récupérer mes facultés. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus lire. J'avais un tas de séquelles suite à l'opération. Mais j'ai fait de la kiné, j'ai fait de l'ergothérapie, tout ça. Et je pense qu'il n'y avait pas de patient plus motivé que moi. J'étais vraiment motivé à retrouver une bonne santé. J'avais un appétit au sens littéral et au sens figuré énorme. La diététicienne de l'hôpital est venue me voir pour savoir si ça allait. Et je pense que là aussi, je suis le seul patient qui lui a demandé une double dose de repas. Vous savez, les repas dans les hôpitaux, généralement, on n'aime pas. Mais moi, j'avais faim, je mangeais tout le temps. D'ailleurs, j'avais perdu une dizaine de kilos avant l'opération. Je les avais repris en quelques semaines. Et puis, tout était neuf. Je suis encore resté plusieurs semaines à l'hôpital. Et puis, j'ai pu rentrer chez moi. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui avait changé en moi. Par exemple, avant d'être opéré, je vous ai dit que j'étais étudiant. Enfin, je travaillais depuis 6 mois comme professeur de français. Et pour moi, même si j'aimais le Seigneur, le but de ma vie, c'était la réussite intellectuelle. J'avais travaillé comme un malade pour faire un travail de fin d'études super. J'avais eu un grade élevé, j'avais eu des beaux points. J'avais des contacts avec des professeurs à l'université pour peut-être continuer comme chercheur à l'université. Et en fait, j'avais tout sacrifié pour ça. C'était vraiment le but dans ma vie. J'étais jeune marié. Et mon épouse était vraiment malheureuse parce que je partais du matin au soir en bibliothèque dans les livres pour travailler. Je ne voyais même pas qu'elle était malheureuse. Je priais pour elle, pour qu'elle aille mieux, mais je ne voyais pas le lien entre mon attitude et le fait qu'elle soit malheureuse. C'était vraiment de l'orgueil et de l'arrogance. Je n'étais pas quelqu'un de foncièrement méchant ou mauvais, mais vous voyez, il n'y avait que ça dans ma vie. Et après l'opération, c'était brisé en 1000 morceaux. J'étais vraiment comme un vase qui était cassé et qui était recollé progressivement. Mais les buts dans ma vie, mes désirs, tout ça avait changé. Je suis devenu beaucoup plus attentif à mon épouse, et surtout, il y a une soif nouvelle de vivre avec Dieu qui est née en moi. J'ai toujours été chrétien, mais suite à l'opération, j'ai commencé à lire la Bible comme je ne l'avais jamais lu jusque-là. J'ai commencé à avoir des communions avec les autres chrétiens, une communion fraternelle comme je n'avais jamais eu jusque-là. Il y avait vraiment quelque chose de tout nouveau dans ma relation avec Dieu. Et puis, mon épouse et moi, on s'était dit, un jour, on aura des enfants, mais avant d'avoir des enfants, on va d'abord économiser, attendre quelques années, faire un voyage à Cuba dans un bel hôtel. Et quand j'étais au soin intensif, je me suis rendu compte que si j'étais parti, j'aurais laissé des gens qui m'avaient aimé sur la terre, mais j'avais le sentiment de ne pas laisser vraiment un héritage. Et donc, mon épouse et moi, on était ensemble dans cette petite chambre au soin intensif. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je voudrais vraiment qu'on ait des enfants et qu'on n'attende pas 5 ans pour notre confort. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que mon premier enfant, Julia, qui était là avec moi tantôt, elle est née 1 an jour pour jour après le scanner qui a révélé la tumeur. Ce qui est étonnant aussi, c'est que l'anesthésie que j'ai subie, les rayons que j'ai eus, ils auraient dû me rendre stérile pendant 1 an. Mais on a un grand Dieu. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu Julia, et puis on a eu Abel, et puis on a eu Joseph, et puis on a eu Paul. Et pour le moment, ça s'arrête là. Mais on a un bon exemple avec la famille Nosek, alors... voilà. Alors, j'ai vraiment senti la présence de Dieu du début à la fin de cette histoire. J'ai vraiment senti qu'il était là, qu'il m'aimait. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. La présence de Dieu à travers nos épreuves. Comment Dieu peut se manifester à travers les épreuves. Une petite chose encore que je voudrais ajouter. Le neurochirurgien qui m'a opéré s'appelle Christian Raftopoulos. C'est un nom de méchant de Tintin, mais il est très, très connu. D'ailleurs, il y a eu des émissions sur les chaînes belges, sur lui, une émission où il était suivi. Et l'émission a même été achetée par TF1. Et elle est passée, il y a quelques semaines ou quelques mois, sur ce professeur-là. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour être opérés par lui. Et moi, je lui ai partagé ma foi assez rapidement, dès que j'ai eu la possibilité de le faire. Je lui ai dit que je croyais en Jésus-Christ. Je lui ai dit combien j'avais la paix, combien j'avais l'assurance que Jésus était avec moi. Et dans un sens, c'était quelqu'un qui... Bon, il rigolait un peu quand je parlais comme ça. Vous savez, quand vous parlez de votre foi, est-ce que les gens rigolent parfois un petit peu? Ouais, un petit peu. Il rigolait. Un petit sourire en coin. Il n'était pas athée, il était plutôt agnostique. Il avait été croyant auparavant, mais dans son métier, dans un sens, il était habitué à sauver des vies. Et ben, quelque part, Dieu n'avait pas vraiment de place dans sa vie. Il n'avait pas de temps pour Dieu, pas de préoccupation pour Jésus. Et un jour, quelques mois après, quelques années même en fait, après l'opération, je dois encore retourner régulièrement pour des contrôles. Et je lui ai dit, mais docteur, quand le premier jour de l'opération, quand vous avez décidé de boucher une des artères, qu'est-ce qui vous a poussé à décider ça? C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et alors il m'a regardé, il a dit, je ne sais pas, une inspiration. En moi-même, je me suis dit « Amen ». Il était inspiré par le Seigneur. Alors, ce matin, pour continuer, je voudrais partager avec vous 4 vérités pour garder confiance dans l'épreuve. 4 vérités pour garder confiance quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, quand on passe par des moments d'épreuve. Mon fils Abel, il y a quelques mois, on faisait une promenade et puis on s'amusait un peu à l'aventure. Quand je suis avec eux, je redeviens l'enfant turbulent qui a donné des cheveux gris à Christiane et qui a aussi enlevé quelques cheveux à Antoine. Et alors, on courait ensemble, on courait, on sautait, on dévalait des escaliers. Ça, c'était dans une ville à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Tout est piétonnier, il y a beaucoup d'escaliers. Alors, on sautait, on s'amusait. Et puis, à un moment donné, il saute et il saute 3 marches d'un coup. Et donc, il se ramasse 3 marches plus bas. Et alors là, il avait mal à son genou, il était abîmé, il pleurait. Et il dit, moi, je ne veux plus jamais jouer à l'aventure. Mais en même temps, vous savez, il admire un peu les skateurs. Vous savez, ceux qui font des figures avec leur skateboard. Alors, je lui dis, mais Abel, ces skateurs que tu admires, est-ce que tu penses qu'ils ont réussi à faire ça du premier coup? Alors, il dit, ben non, ils sont tombés avant d'y arriver. Il dit, ben oui. Et ils se sont relevés, ils ont continué, ils ont cherché à progresser, à plus retomber. Et donc, il avait compris la leçon, alors il n'était pas entièrement consolé, il a fallu encore quelques minutes, mais il a recommencé à jouer à l'aventure. Il n'a pas complètement fait une croix sur l'aventure. Et on est un peu comme ça parfois. On tombe, et quand on tombe, on se dit, mais je ne vais jamais pouvoir me relever, je ne vais jamais pouvoir continuer, progresser dans la vie. La souffrance, c'est une vérité universelle. Tout le monde sait ce que c'est la souffrance. Le bonheur, peut-être que ce n'est pas partagé par tout le monde. La réussite professionnelle, la réussite financière, tout le monde ne la connaît pas. Mais la souffrance, tout le monde passe par là. C'est une vérité vraiment universelle. Elle touche tout le monde sur la terre. Est-ce que les chrétiens sont épargnés? Les chrétiens ne sont pas épargnés. Croire en Jésus ne nous assure pas une vie en rose. Croire en Jésus, ça nous assure la vie éternelle. Ça nous assure la vie en abondance avec Jésus, la paix, mais ça ne nous assure pas pour autant une vie exempte d'épreuves, d'accidents, de problèmes. Les hommes de la Bible ont connu des épreuves, que ce soit Joseph, David, Job, Jérémie et Paul, par exemple, Jésus lui-même. La souffrance ne nous épargne pas, que ce soit dans nos vies professionnelles ou familiales, que ce soit les soucis d'argent, les manques de toutes sortes, les conflits, le mépris, les critiques ou les calomnies, la maladie, nos échecs, nos ambitions cassées ou contrecarrées, et parfois nos désirs les plus légitimes, comme d'avoir un enfant, de trouver un conjoint, d'édifier une famille chrétienne. Même ces désirs légitimes peuvent être broyés. Et ça nous amène assez logiquement à l'angoisse, à la peur et à la frustration, cette souffrance. Ce qui est dramatique, c'est que parfois ça nous amène aussi à rejeter Dieu, à croire que Dieu est responsable de cette souffrance. Quand on écoute les gens du monde, quand on leur partage la foi, il y a énormément de gens qui disent « Mais si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance. Si Dieu existait, ma grand-mère que j'aimais, mon grand-père, il serait pas parti. » Parfois encore plus dramatiquement, si Dieu existait, j'aurais pas cet handicap. Cet enfant que j'ai perdu, il sera encore en vie. Et les gens rejettent Dieu à cause de la souffrance. Même chez les chrétiens, parfois ça arrive. Même chez les chrétiens, on pense parfois que Dieu est l'auteur de cette souffrance. Ou bien on a l'impression qu'il est trop loin, indifférent pour nous aider dans nos épreuves. Ou qu'il est trop petit pour nous délivrer. Et pourtant, la Bible dit, ce verset bien connu, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » C'est un verset qui est magnifique, mais parfois il nous laisse un peu sceptiques. Quand on est dans l'épreuve, si on a un frère ou une sœur bien intentionnée qui nous dit « C'est pas grave, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu », ça n'apporte pas toujours la consolation qu'on voudrait. Et pourtant, la Bible dit vrai, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Ce matin, je vais partager avec vous quelques vérités. Si vous êtes dans l'épreuve, si vous avez traversé des moments d'épreuve, quand vous en traverserez, je voudrais que ça puisse être comme quatre balises, quatre pierres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour rester proche du Seigneur dans votre marche avec lui. La première vérité, c'est que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et vous pouvez dire à votre voisin, Dieu t'aime. Dites-le, c'est important. Dieu t'aime. Dieu t'aime, Alexis. Et vous pouvez répondre, et il t'aime aussi. Dieu m'aime. Quand on passe par un moment d'épreuve, qu'est-ce qui est éprouvé? Jacques dit que c'est l'épreuve de la foi. C'est notre foi qui est éprouvée. Et notre foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement d'avoir confiance en Dieu. L'épreuve de la foi produit la patience, écrit Jacques dans son épître. Quand on passe par un moment d'épreuve, c'est notre confiance en Dieu qui est éprouvée. Notre confiance dans ses attributs et notamment dans son amour. Notre confiance dans l'amour de Dieu. Dieu est 100% amour. La Bible dit qu'il est amour, pas qu'il a de l'amour, mais qu'il est amour. Dieu est 100% amour et j'aime dire aussi qu'il est 100% gentil et bon. Dieu est 100% gentil et bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. Et que fait le diable? L'œuvre du diable, depuis l'origine, depuis la création du monde, ça a toujours été de semer la confusion par rapport à ce point précis de l'amour de Dieu. Le diable veut nous convaincre que Dieu ne nous aime pas ou qu'il ne nous aime pas parfaitement. Et il sait que s'il parvient à nous convaincre que Dieu ne nous aime pas parfaitement, que son plan pour nous n'est pas parfait, il sait qu'on va se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu a-t-il vraiment dit? Il a commencé en disant, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres du jardin? Déjà, il mentait, puisqu'il y a un arbre dont il ne pouvait pas manger le fruit. Et puis, il a insinué le doute. Et il a donné une image de Dieu qui est celle d'un Dieu qui manipule, d'un Dieu qui ne veut pas que sa créature parvienne à un certain niveau de connaissance, d'un Dieu qui veut garder sa royauté pour lui, d'un Dieu qui cache les choses, d'un Dieu qui ment. En fait, c'est lui le menteur. La première œuvre du diable, c'est d'amener la confusion par rapport à l'amour de Dieu. Si vous connaissez un peu l'histoire de Job, et je vais vous inviter, je ne sais pas si on peut projeter Job, chapitre 1, verset 22, Ou bien si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Job, chapitre 1, verset 22. L'histoire de Job dans l'Ancien Testament, on dit que c'est le livre le plus ancien de la Bible. C'est une histoire qui est vraiment tout à fait étonnante. On voit le diable qui se promène sur la terre et puis qui va dans la présence de Dieu. On voit Dieu qui dit au diable, « Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur, comme il me sert, comme il m'aime, comme il m'est fidèle ?» Et le diable dit à Dieu, « Mais oui, mais c'est pas gratuitement qu'il t'aime, c'est parce qu'il a tout ce qu'il veut. Tu es occupé de gâter Job, il est pourri gâté, c'est pour ça qu'il t'aime. » Et Dieu va accepter pendant quelques instants d'abaisser un peu sa protection, d'abaisser un peu cette clôture dont il entourait Job. Et Job, en une journée, va tout perdre. Il va tout perdre en une journée. Et il est dit, à la fin du chapitre 1, Job a tout perdu, mais il est dit que dans toutes ses épreuves, dans tous ses malheurs, Job ne pécha pas. En tout cela, c'est dans tous ses malheurs, dans tout ce qui lui arrive, Job ne pécha pas. Autrement dit, il n'a commis aucune faute. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'a aucune faute ? Parce qu'il n'a pas attribué quelque chose d'injuste à Dieu. Parce qu'il n'a pas reproché à Dieu ce qui lui arrivait. Vous comprenez ? L'œuvre du diable, c'était d'amener Job à attribuer à Dieu ce qui lui arrivait. L'œuvre du diable, son but, c'était pas simplement de faire souffrir Job. Je pense que le diable prend plaisir à faire souffrir tous les êtres humains, toutes les créatures de Dieu. Mais son but final, c'est pas la souffrance, son but final, c'est de nous séparer de Dieu, c'est de nous amener à nous rebeller contre lui. La souffrance, c'est un outil que le diable utilise pour atteindre une finalité. Cette finalité, c'est nous séparer de Dieu. Et dans ce cas-ci, le diable voulait que Job reproche à Dieu ce qui lui arrivait. Combien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, consciemment ou inconsciemment, on reproche à Dieu ce qui nous arrive. On lui reproche de ne pas agir, ou on lui dit « Pourquoi tu me fais ça ?» Vous avez déjà entendu ça ? C'est terrible. Je passe par la maladie, pourquoi tu me fais ça, Seigneur ? Et dans le chapitre 2, au verset 6, donc Job chapitre 2, verset 10, pardon, Job chapitre 2, verset 10, il est dit, en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Parce que même sa femme lui disait, mais enfin Job, t'es stupide, tu vois bien ce qui t'arrive, maudit Dieu, c'est de sa faute. Et Job résiste à cette influence de sa femme en disant, non, je ne maudirai pas Dieu. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Le but du diable, c'était d'amener Job à pécher par ses lèvres, en reprochant à Dieu ce qui lui arrivait. Et d'ailleurs, dans cet épître de Jacques, Jacques veut contrer cette confusion qui est très répandue. Et il écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et Dieu lui-même ne met personne à l'épreuve. Et j'aimerais qu'on puisse dire amen.
Amen.
Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. Les souffrances ne viennent pas de lui. Et un prédicateur qui disait, est-ce que parmi les parents, est-ce qu'il y a des parents dans cette salle ? Je vais lever la main parce que moi je suis parent. C'est ça ? Est-ce que parmi les parents, est-ce qu'on voudrait donner un petit cancer à notre enfant pour lui apprendre la vie ? Est-ce qu'on se réjouirait de le voir malade ? Il y a mon petit Paul, le petit dernier, qui est malade à la maison ce matin, je vous l'ai dit. Ça ne me fait pas plaisir. Et Dieu, qui a un cœur de père, ça ne lui fait pas plaisir quand on est dans la maladie. J'explique aux gens de l'église de Moucron que le premier qui a le cœur brisé quand on passe par des moments difficiles, c'est Dieu. Dieu, il est du côté de celui qui est faible, abattu. La Bible, elle dit qu'il n'éteint pas le lumignon, la bougie qui faiblit, et qu'il ne casse pas le roseau déjà plié. Dieu, il est avec nous dans nos souffrances. Il n'en est pas l'auteur, mais il est un père. Il y a dans un magnifique psaume, c'est le psaume 139, qui dit que Dieu sait tout de nous, qu'il nous a tissés dans le ventre de notre mère, qu'il est avec nous à tout moment. Un Dieu qui nous aime, qui nous a voulu, qui nous a créés, et qui est avec nous tout le temps, ne peut pas se réjouir de nos difficultés, il ne peut pas se réjouir de nos malheurs. Amen. Au contraire, il se réjouit quand on est dans la joie. Dieu m'aime, et ça c'est une vérité fondamentale. Pour aller de l'avant, j'ai besoin de m'enraciner et d'être fermement établi dans cet amour. Et Paul écrit aux Éphésiens, « Puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Dans la Bible, Dieu est souvent comparé à un père. Et il y a quelques versets où il est même comparé à une mère. Je vous lis un magnifique verset de Ésaïe. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand bien même une femme pourrait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont constamment devant moi. C'est un message du Seigneur pour toi ce matin. Le Seigneur t'aime. Ton nom est gravé sur la paume de ses mains et il pense à toi toujours. Une deuxième vérité, c'est que Dieu m'accompagne. Dans le psaume 23, il est dit « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est avec nous dans nos souffrances. Quand j'étais là à l'hôpital, j'avais cette conviction que Dieu était avec moi et je ne passais pas par un moment facile, mais j'avais aussi la conviction que pour Dieu, ce n'était pas facile. Il voit toutes choses, il est omniscient, omniprésent, mais je sentais qu'il était avec moi dans cette vallée de l'ombre de la mort. Je sentais sa présence et je sentais aussi sa tristesse, son chagrin, mais en même temps, la paix qu'il me donnait. Le Seigneur est avec nous à travers la présence du Saint-Esprit qui nous réconforte dans nos afflictions. Il nous envoie sa grâce pour qu'on puisse supporter les épreuves de la vie. Et Dieu reste souverain dans nos souffrances. Il permet qu'on passe par des moments difficiles, mais non, il n'est pas indifférent. Il n'y prend pas plaisir et il va manifester par divers moyens son amour et sa compassion, par un réseau de bienveillance, par une sorte de filet de protection. Dans nos épreuves, c'est comme si le Seigneur, quelque part, il permet qu'on soit éprouvé. Ça ne vient pas de lui, mais il le voit et il le permet. Mais il nous entoure de tout un réseau de bienveillance, d'un filet de protection. Quand j'ai été hospitalisé, il a fallu beaucoup de temps pour que je prenne conscience d'un certain nombre de choses. Mais par exemple, quand j'étais à l'hôpital, tous mes amis de l'université, tous nos amis à mon épouse et moi, ils ont été là avec nous, notre famille, ma belle famille, il y a les médecins. Assez rapidement, dans l'équipe des assistants du Dr House, il y avait un médecin qui était un ami d'un ami. Et donc, il m'a spécialement pris sous son aile. Il venait me voir tous les jours, il m'expliquait la situation. Je me suis retrouvé dans la chambre avec un homme qui s'appelle Roland. Et il avait une maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Et donc, ses muscles se figeaient progressivement. C'est une maladie, en fait, où depuis les pieds, les muscles se figent. Et donc, la personne a besoin d'une assistance respiratoire à un moment donné, où les muscles de l'appareil respiratoire se bloquent aussi. Et lui, comme il était un sportif, il avait vraiment une excellente santé, il n'avait pas besoin de machine pour respirer. Il avait travaillé pour Médecins Sans Frontières pendant une vingtaine d'années. Il avait été partout dans le monde pour soigner les gens. Il parlait plusieurs langues et il était là cloué dans un lit depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et il n'était pas chrétien. Mais vous savez, parfois, j'avais la paix de Dieu avec moi. Mais quand les médecins venaient me voir et qu'ils m'expliquaient, voilà, vous allez être paralysé, vous risquez ceci, vous risquez cela. Déjà, ils m'expliquaient les choses très froidement. Parfois, je ne comprenais rien du tout. Et cet homme-là, qui n'était pas chrétien, c'était vraiment comme un instrument de Dieu à côté de son enfant, parce qu'il m'expliquait les choses. Il a pris soin de moi à ce moment-là comme un papa n'aurait pas pu le faire puisque mon papa, il n'était pas avec moi à l'hôpital. Il m'expliquait, il me rassurait. Une fois, j'ai vraiment complètement craqué et pleuré énormément. Et puis, il m'a simplement dit avec douceur, « Tu sais, Pierre, il y a beaucoup de larmes qui ont été versées dans cette chambre. » Et puis, c'était une petite parole, comme ça, juste, « T'inquiète pas, ça va passer. » Le Seigneur a utilisé d'autres amis non-chrétiens qui habitaient pas loin de l'hôpital et qui se sont occupés de ma femme pendant que j'étais à l'hôpital. Quelques semaines après l'hospitalisation, il y a un ami de Moucron qui est arrivé à l'hôpital. Et c'était tout à fait étonnant qu'il soit là parce que j'ai pu témoigner à ses parents. J'ai demandé qu'il soit mis avec moi dans la même chambre que moi. Et puis j'ai pu partager la foi à ses parents. Il y a deux autres personnes de l'église de Moucron qui étaient opérées dans le même hôpital à Bruxelles le même jour que moi. Donc ils ont fait une réunion de prière dans l'hôpital. Il y a comme ça toute une série de coïncidences et de gens qui ont été disposés. La personne qui m'a opéré, le neurochirurgien dont je vous ai parlé, Dr House, il était connu dans le monde entier. Et c'est c'était vraiment la bonne personne pour m'opérer. Le Seigneur avait tout conduit. Même s'il y a l'épreuve, le Seigneur nous entoure quand même de sa protection et de sa bienveillance. Dieu est avec moi dans l'épreuve. Il m'accompagne, il ne me laisse pas me débrouiller tout seul. Une troisième vérité, c'est que Dieu préside à ma destinée. Dieu préside à ma destinée et il a un plan de bénédiction pour ma vie. Les épreuves à travers lesquelles on passe, le Seigneur va les utiliser parce que son plan inclut la souffrance. Les accidents qui nous arrivent ne prennent pas le Seigneur par surprise. Il n'est pas paniqué quand les médecins ont vu que j'avais une tumeur au cerveau. Le Seigneur dans le ciel ne s'est pas dit « Aïe, 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 qu'est-ce qui arrive ? Il est malade, qu'est-ce que je vais faire ? Je comptais sur lui pour un jour être pasteur dans l'église de Moucron. Mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Le Seigneur, il n'était pas surpris, il n'était pas paniqué et il avait un plan à travers ça. Vous savez, mon beau-père vient de temps en temps m'aider à faire des petits travaux à la maison, monter un meuble, réparer quelque chose. Et à chaque fois, je sais qu'avec mon beau-père, c'est comme ça. Il y a une étape où il y a un truc qui ne va pas. Ça commence, pendant quelques minutes, ça se passe bien. Et puis tout d'un coup, aïe, aïe, catastrophe, ça ne fonctionne pas. Et il est plutôt défaitiste. Alors, il dit, bon, il rouspète, il râle. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il sait toujours bien à l'avance ce qui va arriver. Il connaît le plan bien à l'avance. La Bible dit que pas un moineau ne tombe sans que le Seigneur ne soit averti. Et que nous ne perdons pas un cheveu de notre tête sans que le Seigneur le sache. Même nos cheveux sont comptés, dit la Bible. Résultat, on ne doit pas s'inquiéter. Avant même qu'on prie, Dieu connaît déjà tout et est en contrôle de tout. On peut vraiment se reposer sur lui parce qu'il a un plan parfait pour moi et pour chacun de vous. Il a un plan parfait pour ton église, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail. Il a un plan parfait pour tout ça. Parfois, Clémence me dit, maintenant ça fait à peu près 10 ans que j'ai été opéré, elle dit, de temps en temps, vous savez, quand on est à deux, on se regarde dans les yeux amoureusement, et puis elle dit, ah mais je comprends pourquoi on est passé par là. Et elle veut dire par là, je comprends, on est très soudés, et ces événements ont contribué à nous souder. Et les chrétiens sont comme ça. Parfois, on cherche le sens derrière les événements qu'on vit. On se dit, si le Seigneur a permis que je passe par là, c'est sûrement pour quelque chose. Il y a une raison, il y a une finalité. Et je pense que c'est une bonne chose de chercher l'œuvre de Dieu derrière les événements de notre vie. Mais il ne faut pas oublier que chaque événement dans notre vie, c'est comme une petite pièce de puzzle. Et on a cette petite pièce entre les mains, et puis on la regarde, et on essaye de comprendre comment elle prend place dans un panorama beaucoup plus large, dans l'ensemble d'une vie. Et permettez-moi de vous dire que cette petite pièce, cet événement, peut-être l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, elle fait partie pas d'un puzzle 35 pièces, elle fait pas partie d'un puzzle de 1000 pièces, elle fait partie d'un puzzle d'une infinité de pièces. Et le Seigneur connaît chaque détail de chaque événement de nos vies et il permet que ça prenne place là où ça doit prendre place. Il permet que ça se termine comme ça doit se terminer. Il permet que nos épreuves, que ce qu'on nous enlève, que ce qu'on nous arrache, que ce qu'on a cassé, que ce qu'on a abîmé dans nos vies, que ça puisse être une bénédiction pour nous. La défaite d'aujourd'hui, demain, c'est notre bénédiction. Demain, on la comprendra. Quand on pense à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, chacune de ses épreuves l'a rapproché d'une manière irréversible du plan de Dieu pour lui. Il est tombé en esclavage chez Potiphar. C'était une marche. Il est tombé dans une prison, c'était une deuxième marche, pour l'amener à la première place en Égypte, pour qu'il puisse sauver toute sa famille, pour que tout le peuple de Dieu soit sauvé à travers lui. Le Seigneur travaille comme ça avec ses enfants. Et un psychologue hongrois a dit qu'on est tous à 6 poignées de main de n'importe quel habitant sur la terre. Vous avez déjà entendu ça ? Vous êtes à 6 poignées de main de Barack Obama. Alexis, tu es à 6 poignées de main de François Hollande. Si tu le rencontres, parle-lui un peu de sa politique. Parce que ça veut dire qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ainsi de suite, jusqu'à la personne. Seulement 6 personnes qui sont intermédiaires. Ça veut dire que le Seigneur, lui, il voit tout ça. Il voit comment les gens sont en relation les uns avec les autres. Il sait que s'il touche Antoine, par répercussion, par effet domino, c'est autant de gens qui seront touchés. Si autant de gens sont touchés, par répercussion, c'est autant de gens qui sont touchés. Vous comprenez ? Quand Dieu agit dans une vie, non seulement il a les détails de cette vie sous les yeux, mais il a aussi les détails de toutes les vies qui entourent. Et finalement, des 7 milliards d'habitants sur cette terre. Tout ça est dans sa main. Le Seigneur contrôle et comprend et il connaît tout ça. Il est en paix. Vous savez, moi, je stresse quand j'ai trop de trucs à faire. Je stresse, mais lui, il est dans la paix. Il voit les choses clairement. Et c'est quelque chose qui m'a frappé une des dernières fois où je suis retourné à l'hôpital. J'ai pensé, on a des amis, Clémence et moi, qui s'appellent Alison et Bernard. En fait, on les a rencontrés quand on est devenu étudiant, parce qu'Alison était la cohabitante de ma femme. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils sont devenus des amis très proches quand même, de bons amis. Et un jour, Alison a trouvé un travail à Bruxelles. J'entre un peu dans les détails, mais vous allez comprendre pourquoi. Elle a trouvé un travail à Bruxelles comme psychologue à la fin de ses études. Ils ont hésité longtemps avant d'acheter, de louer un appartement. Et puis, ils ont trouvé un appartement à Bruxelles qui avait appartenu à la famille de Bernard, de l'homme. Et puis, ils sont entrés dans cet appartement, tout allait bien. Quelques mois après, j'ai été hospitalisé à Saint-Luc. Et puis là, Clémence, pour venir me voir, devait prendre le bus. Ça prenait 45 minutes, une heure pour venir me voir. On était tout juste mariés, je me retrouve hospitalisé. Et elle devait assumer... elle devait encore faire son travail de fin d'études et il y avait pas mal de choses. Et en plus, son mari qui se retrouve à l'hôpital, la navette, etc. Eh bien, ses amis qui ne sont pas chrétiens, ils ont dit « Clémence, viens à la maison ». Ils se sont occupés d'elle pendant tout le temps où j'ai été hospitalisé. Ils se sont occupés d'elle non seulement en l'écoutant, en la distrayant, en faisant ses repas, en s'occupant de son linge. Ils l'ont logée, ils ont pris soin d'elle d'une manière parfaite. Et puis, d'une manière parfaite. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que si Dieu connaît toutes choses, le jour où les gens de la famille de Bernard ont acheté cet appartement à Bruxelles, le Seigneur ne savait-il pas que 50 ans plus tard, il y a un de ses enfants qui serait hospitalisé à 5 minutes à pied ? Que la femme d'un de ses enfants aurait besoin d'être logée ? Le Seigneur a utilisé tout ça. Le jour où Clémence a rencontré Alison pour la première fois, le Seigneur ne savait-il pas qu'à un moment donné, Clémence aurait besoin de l'aide de cette personne ? Vous voyez comment le Seigneur fait les choses ? Quand on est dans l'épreuve, souvenons-nous que le Seigneur a tout entre ses mains et qu'il a un plan à travers ça. Et la dernière vérité sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que Dieu peut me donner la victoire. Amen. Il peut nous donner la victoire. Parce qu'après tout ce que je vous ai dit, on pourrait dire, ben voilà, l'épreuve, c'est comme ça, la vallée de l'ombre de la mort, on y passe. De toute façon, le Seigneur va nous bénir à un moment donné, alors on se résigne. Et là aussi, en tant que chrétien, on peut agir comme ça. Et je peux vous donner un témoignage, c'est que moi, j'ai agi comme ça ces dernières années. Antoine et moi, on a expliqué que mon papa était devenu malade. Et dans un premier temps, face à cette maladie, on a prié pour la guérison. On a prié avec foi. Et il n'a pas été guéri. Et le temps passant, on a commencé à prier autrement. On a prié pour tenir le coup, pour persévérer. On a prié pour que ma maman, pour qui c'est aussi très dur au quotidien, qu'elle puisse ne pas sombrer complètement dans le chagrin. On a prié pour que tel médicament ait un peu d'effet. Vous comprenez ? À un moment donné, on a baissé les bras, on s'est résigné. Et il y a quelques semaines, il y a quelques sœurs de l'Assemblée, surtout des sœurs d'origine africaine qui ont une piété particulière. Les frères et sœurs africains ont vraiment une piété particulière et c'est une grâce d'en avoir dans nos églises. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'Afrique parmi vous ? Je me tourne spontanément vers les gens de couleur, mais... On a de la chance de vous avoir dans nos églises parce que vous nous apportez quelque chose de vraiment très précieux. Et il y a une sœur, Roselyne, qui est venue me voir à la maison et qui a dit « Pasteur, c'est pas possible. Dans notre église, il y a un pasteur qui est malade et c'est pas normal. On est l'église dont le pasteur est malade, c'est pas possible. » Elle a dit « On a baissé les bras et on ne peut pas baisser les bras. Il faut qu'on continue à prier pour la guérison. » Et je sentais vraiment une approbation dans mon cœur du Saint-Esprit de dire « relève les mains vers le Seigneur et prie à nouveau pour la guérison. Mets ta foi en action que Dieu peut et qu'il veut guérir. Le Seigneur peut nous donner la victoire. Le temps ne nous appartient pas. Les circonstances ne nous appartiennent pas. Mais on peut s'appuyer sur cette vérité que Dieu peut et veut nous guérir, qu'il peut et qu'il veut nous restaurer, nous faire grandir, nous utiliser, nous réconforter. Il veut nous arracher à l'épreuve. Quand on prie pour être délivré, on prie dans la volonté de Dieu. Amen. Prier pour être délivré de l'épreuve, c'est tout à fait conforme au cœur de Dieu. Le Seigneur a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » L'apôtre Paul a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. » Ça fait partie de ma relation avec Dieu, de lui demander la guérison, de lui demander d'accomplir sa volonté. Je n'ai pas besoin de me dire « La volonté de Dieu va s'accomplir de toute façon. » Le Seigneur nous a enseigné à dire « Que ta volonté soit faite. » De prier pour que sa volonté se fasse. De ne pas être simplement spectateur de cette volonté, mais d'en être le collaborateur, l'acteur et le bénéficiaire. Si vous voulez bien, je vais vous inviter à vous lever à votre place. Voilà. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je vais descendre en faisant attention. Voilà. On peut fermer les yeux, peut-être simplement lever les mains vers le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Seigneur, merci pour ton œuvre de guérison, de restauration, pour ce que tu nous as partagé à travers le moment de louange. Seigneur, merci pour ta présence à chaque instant, dans chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons fonder nos vies sur ton amour, Seigneur. Car tu nous aimes, c'est une vérité. Tu nous aimes et nos souffrances, nos épreuves ne viennent pas de toi. Mais dans nos souffrances et nos épreuves, tu veux être à nos côtés, nous accompagner, nous guérir, nous restaurer. Seigneur, nous confessons aussi que tu as un plan à travers nos épreuves, qu'elles ne sont pas stériles, qu'elles ne sont pas une fin. Elles sont juste un passage pour nous amener à quelque chose que toi, tu as entre tes mains. Et Seigneur, nous confessons également que tu peux nous délivrer. Seigneur, que tu peux combattre à notre place, que tu veux pour nous la victoire, Seigneur. Ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour cette assemblée. Et au milieu de cette assemblée, tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, par des moments d'épreuve, ceux chez qui ça se voit, ceux chez qui ça se voit sur leur visage, dans leur démarche et dans leurs paroles. Mais Seigneur, je te prie pour ceux chez qui ça ne se voit pas. Seigneur, ceux qui ne le montrent pas, qui ont pris l'habitude de porter un masque, Seigneur mon Dieu, mais où il y a la souffrance derrière. Seigneur, toi tu es bon et tu vois par-delà nos masques. Ta parole dit que tu ne nous fais pas des reproches, parce que tu sais de quoi nous sommes faits, mais tu nous aimes profondément, passionnément. Seigneur mon Dieu, tu viens nous rejoindre et tu viens nous toucher là dans nos souffrances, Seigneur. Tu viens nous toucher là où nous sommes peut-être prostrés, derrière le masque de « je vais bien » ou « je tiens le coup » ou « on fait aller » ou « avec Dieu, ça va ». Seigneur, tu nous vois peut-être recroquevillés sur nous-mêmes, avec des peurs, avec des incertitudes, des insatisfactions. Et c'est à cet endroit-là, Saint-Esprit, que je te demande d'agir maintenant. Seigneur, pour apporter une guérison, Seigneur. Seigneur, que cette Église qui est appelée à être un arbre dont les feuilles apportent la guérison, que cette Église puisse entrer pleinement dans cet appel. Elle y est déjà dans cet appel, qu'elle puisse progresser et apporter la guérison. Apporter la guérison à d'autres personnes, mais à d'autres assemblées également. Alléluia. Je voudrais partager cette pensée pour votre Église, que ce nom du phare que vous avez est évidemment un nom prophétique et que vous êtes appelé à apporter la guérison aussi à d'autres assemblées, à d'autres serviteurs de Dieu. Et il ne faut pas vous étonner si vous voyez des gens qui arrivent parmi vous, parfois des gens qui ont exercé des responsabilités importantes dans d'autres églises et dans le monde séculier aussi, et qui viennent parmi vous et qui sont abîmés. C'est votre appel, c'est ce que le Seigneur vous a donné d'apporter la guérison. Ne soyez pas dans l'inquiétude si les gens viennent avec des gros problèmes. Le Seigneur vous donnera les moyens pour apporter la restauration, pour les entourer de votre amour. Et le projet de Dieu est non seulement de faire grandir cette assemblée, mais de faire grandir chacun de ses membres aussi. La Bible nous dit d'élargir nos cœurs. Et le Saint-Esprit ce matin dit, élargissez vos cœurs. Élargissez-les parce que je veux amener beaucoup de gens. Je veux amener beaucoup de situations difficiles. Et le Seigneur veut vous confier des situations difficiles à mesure que vous élargissez l'espace de vos cœurs. Votre capacité à prendre soin. Et le pasteur Antoine a parlé ce matin. Il a présenté cette femme, Marie-Christine. Et il a dit, et c'était une parole qui est valable pour beaucoup de gens, elle a besoin d'être entourée. Peut-être d'un coup de téléphone, d'une invitation, d'une parole réconfortante. Nous sommes tous comme ça, Marie-Christine, comme moi, comme chacun de vous et comme tout ce que le Seigneur enverra, on a besoin les uns des autres. Et le Seigneur veut vous utiliser pour la guérison et la restauration. Seigneur, que tu puisses commencer cette œuvre dans les cœurs de tous ceux qui ont un besoin ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça fait du bien la présence de Dieu. Amen. Et sa parole qui nous rappelle des vérités, c'est précieux. Alors maintenant, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour Antoine lors de ses voyages.